de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU.
Rebonsoir au micro, Idrissa Sedulia pour ce second bulletin d'information de la soirée. Au Nigeria, une explosion dans un petit hôtel de la banlieue de Bauchi, dans le nord-est, a fait hier soir 10 morts et 14 blessés, annoncent les autorités. Personne n'a pour le moment revendiqué cet attentat. Selon l'AFP, le bâtiment était une maison close, une maison de prostitution bien connue, donc une cible possible des militants islamistes de Boko Haram qui s'en prennent à ce qu'ils considèrent comme des lieux de péché. Deux bombes artisanales ont explosé dans la banlieue du Caire, tuant une adolescente et blessant sa mère. Selon les responsables égyptiens de la sécurité, ces bombes ont endommagé un centre de télécommunication en construction. Les deux victimes sont l'épouse et la fille du gardien de l'immeuble. Au moins quatre autres bombes artisanales avaient explosé cette semaine dans la capitale égyptienne. Une série d'attentats à la bombe et de fusillades ont été imputés à des militants depuis le renversement du président islamiste Mohamed Morsi en juillet dernier. Le gros de ces attaques a eu lieu dans la péninsule du Sinaï, mais elles se sont étendues à d'autres villes dont le Caire. Le gouvernement a dit ce mois-ci que ces attaques ont fait quelque 500 morts, des soldats et policiers pour la plupart. Arrivé aux États-Unis, d'Ahmed Abu Khatallah, leader présumé de l'attaque meurtrière contre le consulat américain de Benghazi en Libye il y a presque 2 ans. Attentat qui avait coûté la vie à l'ambassadeur Chris Stevenson et à 3 autres Américains. Khatallah a été capturé ce mois-ci en Libye même. Les autorités judiciaires américaines comptent juger ici même à Washington devant un tribunal fédéral, Khatallah qui a été confié aux forces de l'ordre. En Irak, l'armée a lancé ce qu'elle a appelé une offensive majeure pour reprendre la ville septentrionale de Tikrit aux mains des extrémistes sunnites. Selon les autorités, la principale opération terrestre a commencé samedi par de violents affrontements entre les rebelles sunnites et les forces spéciales tentant de les chasser du camp de l'université. Des hélicoptères ont tiré pour repousser des rebelles dans la région, tandis que des blindés venaient du sud. On n'a pour le moment aucun bilan de ces opérations qui interviennent peu après que les officiels américains eurent annoncé que leurs militaires utilisaient des drones armés dans l'espace aérien irakien pour protéger les conseillers militaires américains envoyés sur place pour aider à barrer la route aux rebelles. En Syrie, une voiture piégée a explosé dans une banlieue de Damas tenue par les rebelles antigouvernementaux, tuant au moins 2 personnes. Selon des témoins et des activistes, l'explosion a eu lieu dans un marché plein de monde à Douma. Plusieurs blessés sont traités dans un hôpital du secteur. Personne n'a revendiqué cet attentat, mais on soupçonne l'État islamique en Irak et au Levant qui rivalise avec plusieurs autres groupes anti-Assad en Syrie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, accuse les États-Unis d'encourager l'Ukraine de défier Moscou. Hier, le président ukrainien Petro Poroshenko a prorogé de 3 jours le cessez-le-feu unilatéral avec les séparatistes pro-russes. Coupe du monde, le Brésil s'est qualifié pour les quarts de finale en battant au tir au but le Chili aujourd'hui. Bobby Womack, un des grands, des derniers grands géants de la soul des années 60 et 70, n'est plus. Il est décédé hier à l'âge de 70 ans. Sa santé n'était pas des meilleures depuis un certain temps. Ce chanteur était aussi un fabuleux guitariste et auteur-compositeur. La reprise de son « It's All Over Now » a donné aux Rolling Stones leur premier hit international. Parmi les autres hits de Bobby, « Across 110th Street »,« If You Think You Are Lonely Now, That's The Way I Feel About You » et « Woman Gotta Have It ». On lui doit aussi de gros succès avec Wilson Pickett tels que « I'm In Love » et « Midnight Mover » et « Trust In Me » de Janis Joplin.
Washington, la voix de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU.
le magazine féminin de la Voix de l'Amérique.
Écoutez le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique avec Nathalie Barre. J'ai une invitée de marque, une artiste guinéenne, chanteuse, Séni Malomou. Bonjour madame.
Bonjour Nathalie.
Et grand merci donc d'être avec nous aujourd'hui dans le studio pour parler de votre travail, travail remarquable.
Oui.
Musique traditionnelle guinéenne de la Guinée forestière.
Ah oui.
Et bon, vous êtes en visite actuellement aux États-Unis. Vous êtes une artiste très connue en Guinée.
Oh,
vous
oui.
avez fait des tournées, il me semble, un petit peu partout dans le monde entier.
Oh, oui.
Et eh bien, moi, j'aimerais que vous puissiez nous parler un petit peu de cet art que vous pratiquez, qui est la chanson, la musique. Vous avez un groupe également.
Oh, ouais.
Depuis quand chantez-vous, en fait? Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir chanteuse? Est-ce que ça date de l'enfance?
Ah oui, c'est la date de l'enfance. Quand j'avais 7 ans, j'ai commencé à sentir ma maman. J'avais perdu ma mère. Je sentais dans les glo-glos pour que les gens me donnent au moins à manger. J'ai fait ça. Vraiment, je suis venue. C'est pourquoi je suis venue à la musique. Dès que je sentais les gens me donner de l'argent, ça m'a donné du courage.
C'est la misère?
C'est la misère, oui.
Parce que vous avez perdu votre maman, il vous a fallu
mon
gagner.
Mon père avait 7 femmes. Donc, je souffrais à la maison, sérieusement. C'est pourquoi je sortais pour aller santé, pour gagner le manger. J'ai fait ça.
Et c'est devenu un métier?
Je ne travaille pas, j'étais enfant d'abord. J'ai commencé à sentir, les gens m'ont pris maintenant, ils m'ont mis dans l'orchestre.
Parce qu'ils ont trouvé que vous aviez une belle voix.
Ah ouais.
Et qu'est-ce que vous chantiez quand vous étiez enfant?
Je chantais Zia Kangai.
Et alors, ça parle de quoi?
Ça parle quand la femme n'a pas d'enfant, il faut tout faire pour que tu gagnes d'enfant. Parce que c'est très important.
Alors aujourd'hui, vous êtes une grande dame. Je suppose que vous avez votre famille aussi.
Très bien même.
Oui.
J'ai beaucoup de famille même.
Et alors, vous avez produit déjà 3 albums, c'est ça?
Oui, 3 albums.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre musique? Est-ce que c'est vous qui créez vos chansons?
Oui, c'est moi qui crée. C'est moi-même qui crée parce que j'étais dans un groupe folklorique. C'est là-bas que j'ai ramassé tous mes chansons. Quand je suis venue maintenant, on m'a mis dans l'orchestre. J'ai commencé maintenant à sentir dans l'orchestre ce que je sentais dans mon petit folklorique. J'ai commencé maintenant à sentir dans l'orchestre.
Alors en fait, vous faites la promotion d'une certaine manière de la culture de la Guinée forestière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Guinée forestière, ça représente quoi?
La Guinée forestière, c'est très bien. Un jour, je vais vous amener là-bas.
J'y suis allée.
Vraiment.
Nzérékoré, vous êtes de là-bas, non?
Oui, je suis de Nzérékoré. Un jour, je vais vous amener à Nzérékoré. Vous allez visiter. C'est très bien. C'est un bon pays.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre région? Qu'est-ce que vous aimez là-bas? Vous en parlez dans vos chansons?
Parce que les gens, quand on est aimé là-bas, on n'est pas égoïste. On est aimé là-bas. C'est pourquoi moi, j'aime. C'est moi.
Et vous parlez de quoi dans vos chansons?
Je parle d'amour. Je conseille les gens. Oui.
Que des bonnes choses?
Oui, des bonnes choses.
Et votre public, est-ce que vous avez un public jeune, plus âgé? Est-ce que vous avez toute la palette qui vient vous voir?
Oui.
Des générations?
Tout le monde vient me voir, même les vieilles, même les petites.
Vous avez un groupe?
J'ai un groupe.
Alors, quel type d'instruments? Combien sont-ils?
Il y a les instruments, c'est nous on dit Tiabala. Il y a les instruments, c'est nous on dit Toulou. Il y a les instruments, c'est nous on dit Keling. Tout le monde joue ce que je veux. J'ai tout payé, j'ai un petit groupe là-bas.
Ils sont combien à peu près?
On est plus de 20 personnes. Hein.
20 personnes?
Oui.
C'est vous qui avez monté ça?
Oui, j'ai monté ça.
Vous avez pu bénéficier d'une aide, notamment du gouvernement.
De voir les gens m'aident. C'est ma fille qui m'a aidée comme ça, elle est venue ici en Amérique.
Oui.
Parce que c'est en travers de mon groupe, c'est elle qui m'a aidée de venir ici. Mm-hmm. C'est en travers de ça, la petite m'a aidée.
Mais vous vivez toujours à Conakry. D'accord.
Elle m'a amenée, pour la première fois, elle m'a amenée à France. La deuxième fois, je me vois
ici. C'est elle qui vous a emmené faire des représentations, des concerts à l'extérieur.
Oui, c'est elle qui m'a amenée.
Et ça vous plaît?
Oui, très bien même. Surtout en Amérique.
Qu'est-ce qui vous plaît en Amérique?
Ah, c'est très propre. Et puis, les gens travaillent ici très fort.
Ils travaillent beaucoup.
Très bien.
Ils ne travaillent pas un peu trop.
Mais les gens travaillent ici. Ici, c'est bien construit, vraiment. Mm-hmm. Vous avez bien construit ici. Très bien.
Mm-hmm. Moi, ça vous plaît
ici. Oui, très
ça
bien.
Ça vous plaît. Mm-hmm. Mm-hmm. Vous préférez Washington ou Nzérékoré? Moi, je préfère Nzérékoré.
Tu vas aller à Nzérékoré, tu restes là-bas. Non, moi, je reste ici.
C'est un peu plus tranquille, non?
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il y a moins de...
Si tu veux rester tranquille, il faut aller à Nzérékoré. Te reposer très bien. Il y a beaucoup de manger, la banane, il y a l'huile rouge, tout ça là-bas.
Et alors, vous dansez aussi sur scène?
Ah oui, je danse. J'ai commencé par ça.
Ouais.
J'ai dansé.
Vous aimez danser?
Oui.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous dansez?
Ça me donne la santé. Et puis quand je vois beaucoup de monde dans la salle, il faut me voir. On dirait que j'ai bu l'alcool.
C'est formidable, c'est formidable. Donc ce contact avec le public, il est important.
Oui, c'est très bien. Sans le public, l'artiste ne peut pas vivre.
Et vous avez des danseuses, des autres danseuses avec vous?
Oui.
Tout le temps. Donc c'est vous qui faites la chorégraphie, c'est vous qui...
J'ai pris quelqu'un pour lui montrer les pas, la chorégraphie. J'ai pris quelqu'un, je le paye.
Et ça, c'est des danses traditionnelles de votre région, toujours? Alors comment on appelle ces danses?
On dit Tiabala, on fait comme ça, il faut voir.
Ouais.
Un jour, on va jouer devant vous.
Oui, vous allez revenir là à la Voix de l'Amérique avec le groupe en studio. Et puis, mais bon, vous êtes déjà, on peut vous voir sur YouTube, vous avez des disques.
Oui.
Et c'est vous qui choisissez les titres des disques?
Moi, c'est pas moi qui...
Non.
Moi, je ne savais même pas si ça est là-bas. Mm-hmm. C'est un blanc qui a mis là-bas. J'ai vu maintenant, j'ai dit, donc ce que j'ai fait, c'est arrivé par là.
Il a remarqué le talent,
hein,
et il a fait ce qu'il fallait pour l'exploiter, pour que vous soyez connu.
Ouais.
Et vous êtes une très forte communauté justement guinéenne, à Washington. Vous êtes très très porté dans la culture, vous exportez bien la culture guinéenne, vous en faites partie de ce mouvement-là.
Vraiment.
Ouais.
Quand je vais venir jouer ici, je vais vous inviter pour aller voir. Dès qu'il y a une cérémonie,
bien sûr.
Dès que je viens, on va t'appeler. Mais vous allez aller voir.
Vous avez déjà fait un concert justement à Washington?
Oui, j'ai fait ça ici une fois. C'est l'ambassadeur.
Oui, qui vous a fait venir?
Non, c'est son mari qui m'a fait venir.
Mm-hmm.
Même l'ambassadeur aussi. C'est l'ambassadeur même qui m'a fait venir. J'ai dansé celui là-bas la fois passée. Mm-hmm. On a joué là-bas.
Est-ce que vous avez connu Taïbou Fatoumata Diallo?
À Conakry?
Oui, qui avait une troupe de théâtre, non?
Oui, je la connais.
Oui.
Je connais Taïbou, oui.
Oui, elle est décédée.
Elle est décédée. Mm-hmm. Elle avait un petit groupe aussi, comme moi.
Un groupe de théâtre, oui. Et comment vous arrivez à concilier travail et famille? Vous avez des enfants, mais ils sont grands?
Les enfants, ils sont grands. Ma fille, là-bas, elle est comme celle-là.
Mais on parle d'une dame qui est juste derrière nous, hein, qui est Elisabeth Lama, guinéenne également.
C'est son mari qui m'a amenée ici.
Guinéenne également, donc de la...
L'Argifa.
Ah voilà, présidente de l'Argifa. Alors c'est quoi l'Argifa? Venez nous le dire ici. Venez nous le dire, venez partager. Et ne vous sauvez pas, ne vous sauvez pas, Seigneur, restez avec nous. Ne vous sauvez pas. Venez le dire ici.
L'Argifa, c'est l'association des représentants de la Guinée forestière en Amérique. Mm-hmm. Oui, mon mari est le président de l'Argifa.
Également, vous travaillez dans ce milieu artistique. C'est un beau milieu.
Côté église, oui.
Ah, vous chantez, vous chantez également.
Oui. Mm-hmm.
Et vous chantez à l'église aussi?
Oui, je chante à l'église,
des fois,
à Conakry.
Et ça vous plaît?
Oui, ça me plaît. Ouais. Parce que tout ce qu'on fait, on fait pour Dieu. Il faut aimer Dieu.
On va s'arrêter là. Et c'était un grand plaisir de vous parler, vraiment très honoré.
Merci Natalia.
Donc c'était Séni Malomo, artiste chanteuse guinéenne avec nous. Merci beaucoup.
Merci.
Entre parenthèses.
L'éradication des mutilations génitales féminines est l'un des plus grands défis de l'ONU. La bataille est loin d'être gagnée car de nombreuses filles et femmes sont encore excisées dans certaines régions du monde, à commencer par le continent africain. Au Cameroun, entre autres pays, le gouvernement subventionne des exciseuses pour qu'elles cessent la pratique. Mais certaines encaissent l'argent et continuent d'exciser. Conscient de l'ampleur du problème, le pays a lancé une campagne contre l'excision avec le soutien de l'OMS. Voici un reportage de Moki Edwin Kinzeka, correspondant de La Voix de l'Amérique à Yaoundé, interprété par Michel Joseph.
Dès 5 heures du matin, Ma Julie pratique secrètement l'excision des fillettes dans le quartier Nkol Bisson à Yaoundé. Une mère est déjà sur place avec sa petite fille de 9 ans. Ma mère m'a emmenée ici pour un traitement. Tout près de l'enfant, on peut voir deux paires de ciseaux et des lames de rasoir dans un plat. Ma Julie dit qu'elle n'utilise pas les lames dans l'après-midi lorsque les températures sont élevées, à cause des risques de saignement excessifs. C'est quelque chose qui a toujours existé dans notre tradition. Nos parents l'ont fait, nos grands-parents l'ont fait. Lorsque vous supprimez ces parties d'une femme, elle restera fidèle à son mari. Ne voulez-vous pas une épouse fidèle ? A-t-elle lancé à Moki Edwin Kinzeka, un correspondant de La Voix de l'Amérique à Yaoundé. Le ministère de la Promotion des Femmes et de la Famille subventionne les exciseuses pour qu'elles arrêtent la pratique. Ma Julie a reçu 100 dollars du gouvernement, mais elle prétend gagner beaucoup plus en un mois. Mes clients donnent un poulet et 10 dollars pour chaque excision. Et maintenant, le gouvernement nous demande de cesser la pratique. Nous n'arrêterons pas. La ministre de la Promotion des Femmes et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, est bien sûr contre ce genre d'argument.
Si vous essayez de discuter avec ceux qui pratiquent, ils vont vous dire, mais ils vont vivre comment ? C'est pour cela donc qu'il faut arriver à leur apprendre à se passer de cela. Et on ne peut pas leur demander de se passer de cela sans leur donner des moyens de survie. Donc il est tout à fait normal de rechercher des financements pour chercher la reconversion de ceux qui pratiquent cet acte.
Environ 140 millions de filles et de femmes dans le monde ont subi l'excision. Les experts médicaux ont montré qu'elle est extrêmement douloureuse et entraîne des conséquences à long terme, dont des difficultés à l'accouchement. Autrement dit, la bataille contre l'excision est loin d'être gagnée, car la pratique est encore très répandue dans plusieurs pays africains.
Au Bénin, la plateforme pour la participation des femmes aux instances de décision réclame au moins une femme sur les 5 membres qui doivent siéger à la CENA, la Commission électorale nationale autonome, pour les 7 prochaines années. La plateforme dénonce la mise à l'écart de Geneviève Bokonadjo lors de la désignation des membres de la prochaine mandature. Magistrate, membre de la société civile béninoise, elle est pourtant arrivée en tête des votes des députés béninois chargés de désigner, sur une liste de 3, le représentant des magistrats. Plus de précisions à travers ce reportage de Peggy Ludovic Dagba, notre correspondant à Cotonou.
La désignation des membres devant siéger à la prochaine commission électorale nationale autonome suscite le courroux des femmes béninoises. Celles qui sont réunies au sein de la plateforme pour la participation des femmes dans les instances de décision ne comprennent pas pourquoi une femme méritante, pourtant désignée par ses pairs, les magistrats, ne reçoit-elle pas l'assentiment des députés, eux qui sont constitutionnellement investis pour choisir les mandatés de l'institution organisatrice des élections au Bénin. Madame Henrietta Rouéba, membre de la plateforme.
Elle mérite vraiment, elle le mérite. Mais la politique de notre pays, le Bénin, fait toujours que les femmes sont reléguées au second plan. Et c'est une femme battante qui peut vraiment défendre la cause de tous les Béninois là-bas. Et on ne sait pas pourquoi, avec notre politique politicienne, on veut la mettre de côté. C'est pourquoi nous avons levé notre voix pour dire non, non à Sala, que cette femme-là siège à cette Sénat. C'est son droit et c'est notre droit aussi de lever notre voix.
Que feront-elles si les députés béninois n'accédaient pas à leurs exigences? Réponse ici de la coordonnatrice de la plateforme, Madame Mireille Agosso.
Nous, en tant que société civile, est-ce que nous pouvons contraindre les députés? Mais déjà, se faire entendre et leur dire que nous ne sommes pas contents, c'est déjà quelque chose. Et j'espère qu'ils seront sensibles à notre appel.
Et s'ils ne l'étaient pas?
Et je souhaiterais vraiment qu'ils le soient. Et je crois qu'ils le seront.
On le constate bien là, beaucoup d'obstacles restent encore à vaincre par les femmes pour leur intégration effective des instances de prise de décision. Madame Mireille Agosso.
Une femme dans l'arène politique est souvent mal vue.
Et pourquoi elle est mal vue?
Bon, on estime que la politique, normalement, c'est un travail d'homme. Ce n'est pas un travail de femme. La femme, elle est là pour rester à la maison, s'occuper de la famille, les enfants. Et on se dit, mais si tout le monde est dehors, qui va rester à la maison justement pour surveiller les enfants. Donc c'est surtout pour ça que souvent il y a une certaine réticence. Et on estime aussi que le milieu politique, c'est un milieu assez pollué. Et on estime qu'une femme qui fréquente ces milieux sera naturellement dévergondée, etc., tout ce que vous voulez. Et ça fait qu'on voit ça pas d'un très bon œil.
Les députés béninois entendront-ils le cri des femmes ce jour au palais des gouverneurs à Porto Novo? La fin de leurs travaux nous le dira. Peggy Ludovic Dagbar, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
Dans l'est de la RDC, les réfugiés rwandais et burundais du Sud Kivu demandent au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et au gouvernement congolais de scolariser leurs enfants au niveau primaire et secondaire, sans oublier la maternelle. Jolie Kamuntu, correspondante de la Voix de l'Amérique à Bukavu, a rencontré ces familles pour leur tendre le micro.
Selon la présidente des réfugiés urbains, le nombre de jeunes hommes et jeunes femmes réfugiés analphabètes est de plus en plus croissant dans la province du Sud Kivu en particulier et en RDC en général. Laurence Mukantanzinda dénonce aussi le traumatisme et le manque de soins de santé de qualité.
Le problème qui devient encore plus inquiétant est celui de l'école maternelle. Depuis que le ministère chargé de l'enseignement primaire et secondaire est déclaré que tout enfant doit présenter le certificat de l'école maternelle pour être inscrit en première année primaire. Face à cette exigence, les réfugiés sont perplexes parce que supporter un enfant à l'école maternelle est un rêve irréalisable pour eux, étant donné la précarité dans laquelle ils vivent. Il y a dans la communauté les enfants qui ont eu des retards de scolarisation suite à l'insécurité qui a régné dans les milieux où ils vivaient en refuge. Ils expriment le besoin ardent de faire l'école primaire malgré l'âge. Nous pouvons également signaler qu'au fur et à mesure que la communauté s'élargit avec les nouveaux arrivés de leur milieu de refuge, Nous enregistrons un nombre de plus en plus croissant de jeunes femmes et jeunes hommes analphabètes qui n'ont jamais connu l'école suite à l'instabilité causée par l'insécurité permanente. Nous supplions le RACER d'envisager comment ces gens puissent fréquenter les centres d'alphabétisation fonctionnelle.
Le directeur provincial de la Commission nationale pour les réfugiés au Sud Kivu dit que le gouvernement congolais et les humanitaires résolvent en grande partie les problèmes des réfugiés. Gratien Mupenda.
Du côté Uvira Fizi, c'était 5 000, donc c'était un total de 50 000 qui étaient jusque-là bloqués par les forces négatives d'Adebrousse. Nous estimons qu'avec les redditions auxquelles maintenant ces forces négatives commencent peu à peu à adhérer, nous allons enregistrer un nombre assez important de réfugiés. Ça fait plus de 20 ans que la plupart de ceux qui ont émis toutes ces doléances vivent au Congo. En tout cas, côté gouvernement de la République démocratique du Congo, tout ce que le gouvernement devait faire, il est fait selon ses possibilités. D'abord, ils ont la protection physique, ils ont la protection juridique, ils ont la protection administrative.
Gratien Mupenda ajoute qu'au moins 68 000 réfugiés rwandais et 12 000 burundais ont été rapatriés de la province du Sud Kivu vers les pays d'origine depuis l'année 2000 jusqu'à 2014. Bukavu, Julie Kamuntu, La Voix de l'Amérique.
Parole de femme.
Alors que les nouvelles technologies se développent en Afrique, les inégalités hommes-femmes demeurent au plan des formations et de l'emploi dans le domaine de l'informatique. En Ouganda, les femmes et les filles ne l'entendent pas de cette oreille et refusent que l'informatique soit la chasse gardée des hommes. Partons à la découverte de cette nouvelle génération qui s'affirme contre vents et marées avec Jacques Aristide.
À des milliers de kilomètres de la Silicon Valley, une petite révolution est en cours. Cela se passe à Kampala, la capitale ougandaise. Des jeunes femmes ont pris les choses en main afin de briser les barrières qui les empêchent de se faire une place au soleil dans un domaine généralement réservé à la gent masculine, l'informatique. Comme ailleurs sur le continent, les petits Ougandais sont encouragés à étudier des matières scientifiques au détriment de leurs jeunes camarades de classe qui sont, elles, cantonnées aux activités féminines. Pour Christine Ampère, une jeune informaticienne de 23 ans, les parents et les enseignants pensent à tort que les mathématiques et les sciences sont difficiles à étudier pour les filles.
Je ne veux pas dire qu'ils pensent que les filles sont stupides, mais ils croient que les garçons sont plus capables de s'atteler aux matières qui semblent compliquées. Généralement, ils supposent que les filles sont faibles physiquement et donc incapables mentalement d'absorber des sujets difficiles.
Christine Ampère et ses amis ont décidé de lutter contre ces préjugés. Il y a 2 ans, elle a cofondé le Girl Geek Kampala, une association qui enseigne les contours de l'informatique aux jeunes femmes, comme concevoir un site internet ou encore programmer une application. Des modules auxquels elle n'aurait pas accès dans le cadre d'études universitaires, majoritairement suivies par des hommes. Mais au-delà de l'aspect purement académique, Girl Geek Kampala donne l'occasion aux jeunes filles de s'exposer aux femmes qui ont réussi dans les nouvelles technologies, des femmes qui servent d'exemple et qui apportent conseils et confiance, des choses qui font cruellement défaut.
La plupart des filles se faisaient très timides et ne se mettaient pas de l'avant. Mais nous avons créé un environnement où on ne juge pas les autres, un environnement amical où personne n'a honte de poser les questions les plus élémentaires.
Les cours offerts par Girl Geek sont gratuits. Ces locaux sont un don d'une firme informatique. L'initiative a déjà fait des émules au Kenya et en Afrique du Sud. Jaldine Mirembe avait commencé en tant que stagiaire chez Girl Geek et a fini par faire partie de l'équipe dirigeante, tout en donnant des cours elle-même. Les Africains, dit-elle, sont désireux de se lancer dans le secteur informatique et le continent regorge de talents qui n'attendent qu'à être découverts.
Tout le monde ici a soif de comprendre et maîtriser les nouvelles technologies. Les opportunités doivent être créées, en particulier pour les filles. Elles peuvent être aussi bonnes que n'importe qui.
Mais Christine Ampère rappelle la triste réalité en Ouganda. Si les femmes veulent réussir dans l'informatique, elles doivent se créer elles-mêmes les opportunités parce que personne ne le fera pour elles.
Et c'est ainsi que se referme le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique. Avec vous, c'était Nathalie Barge. À très bientôt.
Arrête! Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. You're